Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
La diagonale du vide, c'est cette large bande dépeuplée qui traverse la France de la Meuse jusqu'aux Landes. La diagonale du vide, c'est une dénomination désuète qu'on a préféré remplacer par diagonale des faibles densités, avec l'intention de ne froisser personne et accessoirement d'être plus précis pour signifier l'état des territoires qui la composent. Ce qu'on qualifiait auparavant d'étendue complètement désertique sera désormais désigné par les géographes comme une zone où il n'y a pas grand-chose. La diagonale du vide, c'était trois images, deux paragraphes dans mon manuel de géo en cinquième et une réaction mitigée quand j'ai découvert que ma maison y demeurait. Alors que nous n'étions jamais évoqués au bulletin météo, au journal de 20h ou même à la télévision de manière générale, que la plupart des habitants des métropoles arboraient un air perplexe en entendant le nom de notre département, pour une fois, quelqu'un avait pris le temps de nous intégrer à une carte. Ni politique d'aucun parti, ni le Tour de France, ni aucun chanteur connu ne passerait par chez nous cette année. La diagonale du vide, elle, semblait le faire inexorablement. Un sentiment d'être pris en compte inédit qui fut de courte durée lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui rendait notre territoire éligible. L'exode, le chômage, les pâtures, les vieux, le vide. Notre présence sur la carte, dans ce cas, c'était l'absence du reste qui nous la permettait. Du tourisme, de l'emploi, des infrastructures, de la jeunesse et de l'activité. À 12 ans, j'avais croisé dans ma vie plus de voitures que de vaches, plus de béton que de forêt. Au centre aéré, j'avais passé plus de temps à attendre le crayon bleu qu'à m'en servir et ma mère ne parvenait jamais à se garer dans le centre. Le dépeuplement et la ruralité ne me semblaient, par conséquent, pas les termes les plus adéquats pour décrire mon environnement et ce qu'on y traversait au quotidien. Comment réfuter les paroles d'experts portées par des générations d'enseignants devant des générations d'élèves? Comment faire savoir que chez nous, on fait tout comme chez eux? Nul besoin de s'insurger trop longtemps. On peut tomber tout à fait d'accord avec certaines évocations consécutives à une telle dénomination lorsqu'on passe son adolescence dans une petite ville du centre de la France, par exemple. Parce qu'on est confronté à l'ennui et aux vieux qui n'aiment pas notre façon de le contrer, on finit par penser que la jeunesse n'a pas de place ici. Parce qu'on sait qu'on aura beau courir d'un côté ou de l'autre jusqu'à la sortie de la ville et qu'on ne trouvera rien que les champs, on finit par accepter qu'on est des ruraux. Parce qu'on finit par ressentir le besoin d'échapper à l'accablement qui semble peser sur tous les patelins de ce sillage exsangue scindant le pays, on finit nous aussi par embrasser l'exode comme l'assurance de jours meilleurs. Il en est qui restent, ils ne sont pas tous fous. Il en est qui partent, ils n'ont pas tous une situation enviable. Que veut-on expliquer? Que cherche-t-on à faire dire aux cartes? C'est ce que j'aimerais approfondir, du moins c'est ce que je croyais. En fin de compte, il m'apparaît assez clairement que j'ai déjà ma propre idée des gains potentiels pour ceux qui utilisent et défendent ce genre d'appellation, et les conséquences pour nombre de ceux qui les subissent. Que même si elles peuvent être légitimées par certaines dynamiques communes à différents espaces, je n'ai que faire d'en étudier la substance. Au fond, je me moque d'établir si la France est bel et bien traversée par des terres inhabitées. Je veux croire que c'est le vide qu'habitent les discours entendus des mieux lotis qui provoquent en moi un sentiment de vacuité et d'impuissance face à la trajectoire du monde. Pour en avoir le cœur net, il me faut revenir où j'ai grandi, m'assurer qu'il y a bien quelqu'un, quelque chose qui vit au fond de moi, dans ma diagonale du vide.
Coast of town that they forgot to close down. Voilà. Je pense que c'est qui est par contre.
Oui.
Ah bah tant pis, je tire sur le cache-colle. Comment tu veux que ce soit le gilet qui tombe, hein? Franchement. Alors, tes gilets, ils vont
oh oui, ils sont beaux.
Écoute, ils ont été très peu portés. Oui, j'en bois quand même. C'est aujourd'hui, c'est jour de fête.
Est-ce que la diagonale du vide, ça vous parle?
Oui, moi je connais le principe depuis très très peu de temps. J'ai vu un reportage.
Moi non, je connais pas.
Tu connais pas la diagonale du vide?
Non.
Tu sais qu'on est dedans?
Ah ben oui, mais je connais pas, je peux pas dire.
Ouais. Normalement c'est une grosse bande de la France qui part de la Meuse jusqu'aux Landes où on dit qu'il y a personne qui habite quoi, il y a rien en gros.
C'est désert,
ça part en biais.
C'est là où il y a moins de gens dans les départements.
Oui.
Oui, mais je ne savais pas ce que c'était.
Ouais. Et du coup, là, on est dedans, l'Allier.
Ah oui, et ben oui, aussi. Forcément.
Ouais. Toi, t'as l'impression qu'il n'y a rien ici, toi? Que c'est vide?
Bon, non. Moi, j'ai pas l'impression que c'est vide.
Alors déjà, diagonale du vide, c'est un terme qui est un petit peu daté aujourd'hui, ou même diagonale des faibles densités, notamment parce que on a connu ces dernières décennies en fait une reprise des dynamiques démographiques, notamment dans le sud-ouest de la France. Voilà, c'est compliqué en fait d'avoir une approche qui est aussi simplificatrice en fait. Enfin. Voilà, les universitaires aiment bien nuancer, aiment bien dire que tout ça est un petit peu plus compliqué. Et en fait, dans ce qu'on pourrait appeler la diagonale du vide, on va avoir des territoires avec des dynamiques très différentes, des communes rurales, des communes qui appartiennent aux couronnes périurbaines, des communes qui appartiennent à des grands centres urbains. Je sais pas, si on prend l'aire urbaine de Clermont-Ferrand, c'est 500 000 d'habitants, on est en plein milieu de la diagonale du vide, bon.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Élie Guéraud, bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, tu es sociologue, chargé de cours à l'UCA également. Tu as participé à l'écriture de pas mal d'articles. Tu as publié un bouquin, c'est Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle, c'est ça?
C'est ça.
Tu as participé à un article, c'est Déclin urbain comme question sociale, une analyse des dynamiques contrastées des villes moyennes.
Avec Virginie Piguet, qui est statisticienne, ingénieure de recherche à INRAE.
Hein, toi, t'as pas l'impression que...
Bah oui, non, je pense que c'est...
Il n'y a pas de base, bien sûr.
Enfin, c'est une grande théorie. Moi, je trouve ça peut beaucoup fausser parce qu'il y a des grandes villes, donc Clermont-Ferrand, qui sont intégrées dans cette diagonale du vide. Donc ça veut tout dire et rien dire. En fait, ça peut être un lieu commun et donner des idées fausses.
Moi, je trouve que c'est pas si vide que ça, hein.
C'est pas si vide.
Ça veut dire qu'il y a des villes d'un demi-million d'habitants en plein milieu de cette diagonale du vide. Mais voilà, donc les universitaires, ils vont vraiment avoir tendance à nuancer de la même manière que cette notion de France périphérique. Voilà, il n'y a pas une France des métropoles, une France périphérique. Bon, néanmoins, si on fait des moyennes et qu'on lisse un peu cette réalité grossièrement, on voit quand même que dans tout un ensemble d'espaces ruraux, de villes petites et moyennes, du centre de la France ou du nord-est de la France, les choses vont pas bien.
Toi, vous êtes partis toutes les deux à un moment donné, non?
Oui. Mais moi, j'aimais ni mieux la ville. Ce que j'ai préféré, ça a été la campagne où était ma maison. Hein. Mais ici, non. Ici, c'est comme une ville dortoir pour moi. C'est parce qu'avant, c'était la forêt de Troncet et j'étais bien, moi. C'était la campagne, c'était l'endroit où je suis née et tout. Que là, non, moi, je suis une pièce rapportée ici. Je vis pas, hein. C'est vrai. Pour moi, ici, c'est mort. Ouais.
Mais on voit aussi des contre-exemples. Voilà, je sais pas, proche d'ici, la commune de Vichy. Non, Rion.
Ouais, Rion, tout à fait. Et il me semble que Vichy, non.
Oui, voilà. Non.
Ce qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs.
Tu as tu as tout à fait raison. Bah parce que Vichy, en fait, connaît une forme de fragilisation par rapport à ce qu'elle était. Parce que cette typologie dont on reparlera, mais qu'il y a dans l'article là, de Espace Société, coécrit avec Virginie Piguet, on regarde aussi les dynamiques. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas seulement où en est la ville aujourd'hui, on regarde ce qu'elle a été et comment ça a évolué.
Univox.
T'aurais l'argent d'habiter en ville, tu penses ?
Bah, d'une grande ville, après, je sais pas. Mais c'est souvent, voilà, d'avoir des beaux appartements, pourquoi pas, mais il faut avoir les moyens, effectivement. Je dis pas que tout est mal en ville, hein. Je suis pas contre, mais après, voilà, il y a peut-être trop de monde, et puis il y a toujours ce frein, moi, je pense, économique, hein, effectivement.
Ouais. On n'est pas si mal que ça, en définitive. C'est vrai.
Toi, tu te sens bien, toi, ici ?
Oui, mais j'ai des amis, voilà. J'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai mes habitudes, mais
ton jardin.
Après je suis, ouais, j'ai un jardin, j'ai cette chance-là, effectivement, d'être dans une petite ville et de pouvoir avoir un jardin, oui. Puis d'avoir un bon voisinage, hein. Oui. Voilà, je vis pas. Après, il y a dans un quartier défavorisé où malheureusement peut y avoir aussi des risques de violence ou du racisme, ah, ou des choses, oui, comme ça. Donc je suis préservée. Sûrement, il y a quand même nettement moins d'insécurité. Sécurité, moins de pression dans les grandes villes. Enfin, c'est l'idée qu'on s'en fait, c'est peut-être pas, oui, vrai, ça, aussi. On sait pas, je sais pas. Voilà, hein. C'est peut-être aussi surfait.
Oui, parce que je vois même dans les petites villes tous les meurtres qu'il y a. Et...
Oui, il y a de la délinquance, certainement, oui, mais bon, tout dépend aussi des quartiers, je pense, comme dans les grandes villes. Dans les petites, oui, villes, c'est pareil.
Moi, je pense qu'en tout cas, les mécanismes globaux sont assez semblables. Après, là où moi, je veux pas tomber dans... voilà, moi, je suis quand même un sociologue des territoires et des classes sociales. Là où je veux pas tomber dans ce que font certains sociologues, hein, qui pourraient être de dire, ben, en fait, l'espace, on s'en fiche. Pour moi, il faut toujours avoir les deux dimensions en tête, c'est-à-dire vraiment ce que l'espace produit sur les classes sociales, on pourrait dire, sur les rapports de classe, sur la, voilà, ce qu'on appelle, en fait, la morphologie sociale d'un espace. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et dans un même temps, il ne faut pas tomber dans un déterminisme spatial qui... voilà, ce que j'appelle déterminisme spatial, ce serait de dire que tout est défini, tout est régulé justement par l'espace. À mon avis, c'est une ligne de crête sur laquelle on doit toujours être. Et à mon avis, on est dans le faux quand on dit à la France des périphériques, la France périphérique contre la France des métropoles. Mais on est aussi dans le faux quand on prétend, en tout cas, rendre compte de voilà comment est structurée aujourd'hui la société française en oubliant complètement la dimension spatiale.
Univox.
Et les jeunes ici, vous en pensez quoi ?
Oh bon, y a pas de...
Ils sont pas pires que les vieux.
Non, voilà.
Ah non, mais c'est vrai, hein, parce qu'il y a des vieux qui sont aussi incorrects, peut-être pires que des jeunes. Hein. Attention, encore là, il n'y a plus le café où ça buvait tant. Hein. Je vais pisser. J'ouvre ma fenêtre. Oh bah dis non. Hein. Bah,
vous pensez qu'ils font quoi les jeunes ici ?
Bah, ils s'occupent comme ils peuvent, hein, je pense. Il y a les jeunes qui vivent dans les quartiers, malheureusement, HLM, pas forcément défavorisés, mais où il n'y a pas grand-chose, où les pauvres, pour qu'ils puissent un peu se défouler ou s'occuper.
Ils traînent dans les rues avec d'autres.
Et puis il y a les jeunes un petit peu de la classe moyenne où les parents vivent un peu à la périphérie de la ville. Donc pareil, je pense qu'ils sont assez désœuvrés parce que sortis du cinéma, du bowling et puis de surtout se regrouper un petit peu, se voir, il n'y a pas grand-chose. Et puis il y a les jeunes aussi qui sont dans le secteur rural et alors là, pour le coup, c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils aient un moyen de locomotion. Et s'ils n'ont pas une mobylette ou une petite moto,
ils n'ont pas l'argent, même qu'on fasse beaucoup pour eux, parce que regarde la médiathèque, tout ça, mais il y en a que ça n'intéresse pas du tout. Moi, je sais que ça n'intéresse pas. Mais alors, pas du tout.
Allô. Ouais, beau gosse, ça va quoi?
Ça va et toi?
Tranquillou, ça te dit quoi?
Voilà, on est en train de faire un foot à la média là.
Ouais.
Mais ça va décaler chez nous, là, je pense.
Ok. Vous voulez pas aller vous poser à la KT?
Je peux proposer.
Ok, bah vas-y, ça roule. Bah, de toute façon, vas-y, on s'attrape, je te dis quand je bouge.
Vas-y, on fait comme ça.
Vas-y, ça roule. À toute.
À toute.
Dans ma vie, putain, je traîne trop. Moi, ça, putain, je bois trop. Un chien, je te parle pas trop. Ça veut pas dire que je t'aime pas trop. Je suis pas contraire de ma peur.
répète pas trop. J'essaie juste d'oublier cette peau. J'ai fait le tour du monde dans ma vie. Sous l'effet de cette que trop. Putain, ma vie, putain, je traîne trop. Je ça, putain, je bois trop. À cher, je te parle pas trop. Ça veut pas dire que je t'aime pas trop. Je suis pas content, ne m'appelle pas trop. J'essaie juste d'oublier cette peau. J'ai fait le tour du monde dans ma vie. Sous l'effet de cette que trop. J'ai écrit un texte sur ma vie. J'en ai fait des centaines de chansons. Dans mes chansons.
Faites quoi? Tu connais?
C'est c'est ouf, non?
Chichi, observation participante.
Que l'on.
Ah, c'est ça, observation participante.
Comment ça vous dit, c'est ça?
Ouais, t'es connu.
Non, je prends la voiture.
Chacun ses méthodes.
Mais t'as droit à deux verres depuis.
Monsieur Porte, vous êtes le maire d'une petite commune rurale. Combien d'habitants dans votre commune?
412. 412 habitants.
Votre métier vous amène à sillonner la campagne. Vous voyez la vie des paysans, enfin des gens de la campagne.
Je la connais bien celle-là parce que je suis de cette classe moi-même.
Est-ce qu'on boit beaucoup à la campagne?
On boit pas mal.
Oui.
C'est une des distractions de la campagne. Quand on se rassemble plusieurs, eh bien, on... le plaisir de trinquer.
Qu'est-ce qu'on boit?
Bois ce que t'as bu et le quatrième, tu bois le double. Dernier, tu bois le double.
Ah non, t'avais pas bégayé avant, putain.
C'est pas des questions intimes?
Je sais pas, c'est une question... C'est une question que vous répondez si vous voulez. Hein.
Après, c'est facile d'être jeune ici ou pas?
Ouais, ça va, il y a la tisane, mais. Bon, c'est un peu chier quand même.
Vous aimez bien Moulins? Je suis mitigé sur la vie, mais j'aime revenir à Moulins. J'aime pas y rester, mais j'aime revenir à Moulins.
Ouais, la frappe. Oh, incroyable. Patate, sa mère. Attends. Voilà, Moulin RPZ.
Pourquoi t'aimes pas y rester?
Parce qu'à la longue, il n'y a rien à faire. Mais revenir pour le calme, ça fait plaisir.
Ouais, mais dis un chiffre.
C'est ça. Tu sais te la mettre quand il faut, où il faut. Prendre du temps parce qu'il y a des champs. Oh, ça rime. Et puis voilà.
Moulin, c'est bien. Après, c'est bien à faible dose. Je pense que ouais, c'est bien d'y grandir.
Peut-être un peu. Ouais.
J'apprécie. J'apprécie le calme. J'apprécie le changement. Et ça change pas beaucoup. Mais vu que nous on change un peu, ben. Miroir quoi. Et voilà. Je parle par mots, excuse-moi, je suis un peu comme, comme Yoda, tu vois.
Ah ouais,
ouais. Voilà. Je parle par mots. Il y en a, ils parlent pas. Par lettrine, tu vois.
Je trouve ça vraiment bien parce que tu peux vraiment rencontrer des gens quand même variés, mais après ça reste quand même des bonnes rencontres qui vont rester dans le temps.
Mais dans des grandes villes, il y a plus de possibilités, je pense, de rencontres et de rencontrer des gens qui nous correspondent qu'ici. Les gens qui me correspondent ici, c'est pas les gens auxquels on penserait forcément de premier abord.
Mais dans les grandes villes, il y a un truc où il y a tellement de... Les gens, tu vois, ils ont déjà tellement leurs amis et tout. Il y a tellement de monde que, par exemple, dans un bar, ça va moins aller se tchatcher. Donc il y a des mecs qui peuvent être installés longtemps dans la ville, tu vois, mais qui n'ont pas pour autant créé tant de liens.
À Lyon, c'était galère de rentrer. Enfin, je trouve que c'est plus galère de rentrer dans des groupes parce que les gens, ils sont soit plus soudés, soit ils... Enfin, je sais pas, c'est pas la même approche... pour rentrer dans un groupe.
Qui sont vraiment de la ville, ont plein d'amis, etc. Je sais pas s'ils sont vraiment... Genre, ils sont plein d'amis et tout, mais c'est pas forcément un groupe comme là, ça peut se passer.
Ouais, ça va me permettre de clarifier ce que je disais. Et là, on va parler de socialisation, du coup, pour illustrer ça. Donc la socialisation, c'est ce processus par lequel les individus incorporent, apprennent les différentes manières d'être, de se tenir, le langage, voilà, bon, c'est on va dire, une notion vraiment clé en sociologie. Et la socialisation, on a longtemps insisté sur la socialisation de classe. Bon, et aujourd'hui, il y a des travaux, avec lesquels je suis complètement d'accord, qui tendent aussi à parler de socialisation résidentielle. C'est-à-dire qu'il faut notamment regarder, évidemment, quelle est la profession des parents. C'est pas pareil d'être élevé dans un ménage ouvrier, dans un ménage de prof, à la MGEN, à la Maïf, etc. Bon, bref. Mais en même temps, c'est pas pareil d'être élevé dans des espaces ruraux, dans des villes moyennes, dans des grandes villes. Et donc, toute cette question de la socialisation résidentielle, il me semble, elle permet justement de ne pas rentrer, ou en tout cas de contourner, de dépasser le débat. Est-ce qu'il y a un déterminisme spatial ou social ? Voilà, pourquoi et comment les gens sont ce qu'ils sont ? Ça permet du coup de dire que tout est social, évidemment, mais qu'en même temps, il y a des variations territoriales très importantes. Les rapports de classe ne sont pas dilués dans une sorte d'interconnaissance villageoise où tout le monde serait copain, etc. On retrouve quand même des clivages sociaux qui peuvent être relativement forts. Mais après, c'est vrai que forcément, vu l'échelle, vu la faible densité, tout le monde se connaît, que tout le monde se fréquente, mais en tout cas, tout le monde se connaît. Et de ce point de vue-là, l'altérité, en tout cas la confrontation à l'altérité, oui, va être plus forte. Alors que vraiment, quand on est dans la grande bourgeoisie parisienne, on peut
tout à fait éviter
à peu près toute sa vie sans croiser de classe populaire, si ce n'est le personnel de maison ou les employés des services de luxe qu'on va croiser de temps en temps, quoi.
Mais moi, je suis plus dans cette diagonale, faut pas me demander à moi. Tu vois.
Pourquoi t'es parti ?
Je suis parti pour des opportunités professionnelles, tout simplement.
La zone jeune, arrêtez de rigoler. Mais
Diagonale du vide.
Ouais, diagonale du vide.
La quoi ?
Diagonale du gros vide.
Après, faut s'en séparer de Moulins pour son bien-être à soi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qu'on loupe si on reste que à Moulins dans sa vie.
Parcoursup, là, pour les facs de droit que je veux faire, qui sont dans des grandes villes, j'ai moins de chances d'acceptation, d'être acceptée, alors que mes notes sont bien, de ouf, parce que j'habite pas dans la région à côté. Et t'as une sorte de marginalisation des populations qui habitent dans les centres, dans le centre de France, ou dans des régions très loin des métropoles centralisées, quoi.
Ok, oui, putain, vous avez tous dit la diagonale du vide, genre vous ressentez le truc, genre le vide il est diagonal ?
Oui, je le ressens, oui. Tous, malgré vous avez dû le ressentir, notamment par la scolarité.
Y a personne qui a...
Il n'y a rien pour la jeunesse. Il y a quoi pour la jeunesse ? Pas grand chose.
Non !
Il y a les jeunes.
Parce que je pense aussi que les gens ici sont pas prêts à vraiment être dans l'action à fond pour évoluer et pour pousser le...
Ah ouais ?
Okay. Pour pousser les choses. Parce que les gens, ils sont dans la routine et ils ont un cadre de vie qui fait qu'il y a plein d'habitudes qui peuvent pas être changées. Genre, tu peux pas construire une vie différente, j'ai l'impression que t'es obligé de reproduire, tu vois, quand t'habites ici. Genre, t'es obligé de reproduire le schéma de tes darons, de... Tu vois, je sais pas, genre, y a pas moyen d'exercer autre chose, tu vois. C'était trop...
Pas d'alternative.
Ouais, y a pas d'alternative, je serais trop sous l'emprise de trucs.
C'est pour ça que même les jeunes n'y restent pas, je pense qu'il manque de changement, clairement. C'est tout le temps les mêmes choses qu'on voit, et même quand on sort, nous, on va au même endroit à chaque fois, parce qu'il n'y a rien.
Ici, on est plus extrême droite, genre les gens aux législatives de... Non mais genre en mode, globalement, les dernières législatives, ça a voté extrême droite, je crois.
Bienvenue sur Radio-Fasciste.
Un peu comme ça. Non mais les mentalités changent, franchement, en vrai, en mode, ils sont plus axés sur des choses assez futiles, et vous, je trouve, vos générations, elles sont plus axées dans l'art, la recherche de soi, et je trouve que ma génération, elle est plus ancrée dans avoir, posséder et paraître que d'être réellement.
Et là, c'est intéressant, parce que je disais, les espaces ruraux sont pas tous homogènes, et en fait, il y en a certains qui sont plus en déclin et plus populaires que d'autres. Ça me permet de faire le lien avec le travail d'un sociologue qui s'appelle Benoît Coquart. Le Benoît Coquart, moi je conseille vraiment d'aller voir son livre Ceux qui restent. Ce que montre Benoît Coquart, il est donc dans une campagne populaire en déclin du Grand Est, et c'est une campagne où en fait ses représentants de l'État, ses classes moyennes à capital culturel, etc., ont quasiment disparu. Et pour celles qui n'ont pas disparu, en fait, elles sont tellement marginalisées et à l'écart qu'elles ont en fait abandonné presque leur rôle d'encadrement des classes populaires. elles vivent en fait dans une sorte de, voilà, d'entre-soi, mais presque d'entre-soi subi. Hein. Et en fait, la place d'encadrement des classes populaires va être prise par la petite bourgeoisie économique. Les artisans du coin, les petits entrepreneurs ou les gros entrepreneurs. Ces campagnes-là, elles sont un peu à l'avant-garde de ce mouvement, mais ce mouvement qui commence un peu à grignoter le reste de cette diagonale du vide et aussi à toucher les villes petites et moyennes, les préfectures, sous-préfectures, où ben, ce que j'appelle une petite bourgeoisie culturelle locale tend à de plus en plus laisser sa place à une petite bourgeoisie économique et donc à ne plus assurer ce rôle d'encadrement des classes populaires dont on parlait.
T'as dit, justement, ces classes moyennes et supérieures n'ont pas la main sur les espaces. Est-ce que du coup on peut penser qu'à terme ces espaces soient gérés par et pour les classes populaires ?
Moi je dirais qu'une des limites à cette hypothèse, c'est que contrairement à la petite bourgeoisie culturelle, les classes populaires, c'est quand même un ensemble hétérogène qui n'est pas représenté politiquement, qui est très peu représenté sur la scène associative, qui est très peu représenté en fait dans l'espace public institutionnel. Et donc de ce point de vue-là, si on réfléchit un petit peu à est-ce que cet ensemble de groupes sociaux peuvent, bah, par exemple, gagner la municipalité, par exemple, fonder des associations pour, je ne sais pas moi, monter un bar associatif qui serait ajusté à la pratique, en tout cas, de certains de ses membres, bah, moi, la réponse, je serais plutôt pessimiste. Je dirais non. Non, parce que ce n'est pas un groupe social mobilisé, comme pouvait l'être la petite bourgeoisie culturelle. Ce n'est pas un groupe social mobilisé, et en plus c'est un groupe social extrêmement pluriel, avec des tensions très fortes en son sein. Moi je pense notamment, à mon avis, le fort vote RN dans cet espace-là traduit aussi en fait des oppositions internes au sein des classes populaires, entre classes populaires racisées, issues de l'immigration, ou classes populaires blanches. Cette opposition, elle est aussi fragile parce que, en réalité, le vote RN, il est aussi nourri par des immigrés ou des descendants d'immigrés qui ont été nationalisés, qui sont là depuis plusieurs générations. Je sais pas, moi, je pense au résultat que je donnais tout à l'heure avec le RN qui, derrière l'abstention, est le principal parti au présidentiel de 2022 dans beaucoup de quartiers populaires. Ce qui fait que je vois mal comment, voilà, demain, elle pourrait constituer un groupe social mobilisé sur la scène politique pour, bah, par exemple, prendre la municipalité et transformer l'espace à leur goût. Je serais assez pessimiste pour répondre.
Ok, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Elie Guéraud.
Bah, merci à vous.